Je voudrais vous inviter à vous lever, si vous le voulez bien, pour lire le texte sur lequel nous allons méditer ce matin. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, tout juste après l'exécution de Jean-Baptiste, cousin de Jésus, et tout juste après la multiplication des pains. Matthieu 14, au verset 22, voici ce que nous lisons. « Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues. Car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et la saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque et le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons implorer le secours de ton esprit pour qu'il ouvre notre cœur à ta parole, pour que nous puissions nous en nourrir, la mâcher, la digérer et qu'elle nous mette en mouvement, que nous puissions en mettre en pratique ce que tu veux nous apprendre ce matin. Amen. Je vous invite à reprendre place. Est-ce que vous aimez les défis? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à répondre assez rapidement au cap ou pas cap? Alors, est-ce que vous aimez les défis, les challenges? Oh oui, hein, on aime ça, n'est-ce pas? Il y a une petite dizaine de jours, alors que j'emmenais Benjamin, mon fils, au collège, j'ai été témoin d'une scène particulière. Une petite troupe de garçons, vous savez, 6e, 5e. Et voilà que l'un était en train de parader en disant « Tu sais, moi, j'ai traversé la route en dehors des passages cloutés. » Et il pavanait. Et l'autre, il dit « Hé, tu sais, lui, il a marché en dehors des passages cloutés, il a traversé la route. » Sans se faire renverser, bien sûr. Il y avait une émulation. T'es même pas capable de traverser la route en dehors des passages cloutés. Alors, ma maman est allée le voir pour lui dire combien c'était dangereux. Et après coup, il nous a regardés. Il n'arrêtait pas de nous observer. Et puis, d'autres copains sont arrivés. Et l'autre a dit, mais regarde, lui, il est capable de marcher, de traverser la route. Et il pavanait. Et en même temps, il nous regardait pour voir si on n'allait pas lui dire quelque chose. Et puis, à un moment, je l'observais. Et il avait passé une jambe par-dessus la barrière qui les protégeait. Le collège. Il me regardait et je lui ai juste fait un signe de non. Non, n'y va pas. Parce qu'effectivement, il a vu que d'un côté, il n'y avait pas de voiture, Mais il n'avait pas vu qu'en tournant le dos, il y avait une voiture qui arrivait de l'autre côté. Et s'il avait couru, le pire aurait peut-être pu arriver. Ah, les défis. Se sentir en danger. Frôler la mort pour mieux se sentir vivant, n'est-ce pas? Allez, allez quoi? T'es même pas capable de faire ceci ou faire cela. Hein? Est-ce que c'est cela, vivre par la foi? Est-ce que c'est répondre aux défis? Est-ce que c'est aller vers l'inconnu sans aucune indication de loin ou là, nous on va? Est-ce que c'est un peu comme dans les cartoons, vous savez, quand il y a une poursuite, ils arrivent à la falaise, le héros c'est surtout Bip Bip et Coyote, il court et il se retrouve au-dessus du vide, et c'est juste au moment où il se rend compte qu'il est au-dessus du vide qu'il tombe. Est-ce que c'est cela, vivre par la foi? Est-ce que c'est cela que Jésus attend de nous, que nous marchions comme Pierre sur l'eau? C'est une question que je vous invite à méditer ce matin. Mais revenons juste très rapidement au contexte de notre texte de ce matin. Je vous l'ai dit, c'est juste tout à fait après la multiplication des pains. Il y a eu l'exécution de Jean-Baptiste. Et puis avant cela, il y a eu l'envoi des disciples. Et puis la difficulté parfois d'être entendu dans certaines villes. Mais quand même, les disciples sont dans la joie. Ils ont vu une chose incroyable. Jésus qui a multiplié les pains et qui a pu nourrir au moins 5000 personnes. Incroyable. Alors les déboires passés ont certainement passé en arrière-plan. La joie de voir la foule nourrir, rassasier. Et puis ils ont un petit peu participé, hein, les disciples. C'est eux aussi qui ont été les canaux de la distribution. Incroyable. Mais voilà que Jésus les oblige à partir. Allez quoi, Jésus, on pourrait rester un tout petit peu, se réjouir encore. Mais Jésus les oblige. Et le terme exprime une certaine contrainte. Partez. Non. Partez. Non. Partez. Non. Bon, vous allez partir maintenant. Et voilà nos disciples qui finirent par partir pour que le Christ puisse rester seul en prière. La solitude. La solitude. Voilà un des moments, un des thématiques qui va revenir dans notre passage. La solitude des disciples dans leur barque. La solitude de Pierre, l'impétueux, comme si la solitude avait du bon parfois, comme si la solitude était cet élément important de la vie de foi, occasion du silence et de la rencontre avec Dieu. Mais bon, ce n'est pas vraiment le silence que nos disciples sur la barque vont rencontrer. Un environnement hostile, particulier, épuisé, peut-être même un petit peu interloqué par cet envoi de Jésus un petit peu brusque, ils luttent contre le vent, encore et encore. Et puis, pas de moteur pour revenir à la rive. Et puis là, Jésus n'est plus loin pour calmer la tempête, comme autrefois. Et c'est dans ce contexte qui malmène que les disciples sont mis à l'épreuve, loin de Jésus. Ah, s'il avait été là, il aurait pu calmer la tempête. Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais où es-tu, Jésus, quand j'ai besoin de toi? Où es-tu? Questions qui sont peut-être les nôtres quand nous traversons la souffrance. Et puis là, Jésus qui revient, qui vient vers eux de façon tout à fait scientifiquement improbable, là où on ne l'attend pas. Il ne les attend pas patiemment sur la rive en train de cuire le poisson et préparer du pain. Non, il vient à leur rencontre. Et il arrive marchant sur les eaux. Il faut quand même imaginer le contexte. En pleine tempête. Vous êtes en train de batailler pour que l'embarcation ne coule pas. Et voici que vous voyez quelqu'un au loin marcher vers vous. Ah, c'est un fantôme, ça c'est sûr. Vous savez, un peu dans les films à fois à suspense parfois, où les héros ont la drôle de fâcheuse tendance d'aller seuls dans un endroit noir, Il y a la musique qui monte petit à petit. Et on sait très bien que le méchant est en train de se cacher quelque part par là. Mais non, on se répartit les tâches. Toi, tu prends le premier, moi, je prends le deuxième. Et on est tout seul, on traverse dans le noir. Et la musique monte. La tension monte. On ouvre une porte. Puis deux. Il n'est pas là. Et puis ça monte. Et puis là, on est crispé sur notre siège. On dit, mais quand est-ce qu'il va arriver? Et paf! On ne s'attendait pas et on est pris de frayeur tout d'un coup. Mais là, on n'est pas dans un film à suspense. Jésus n'entretient pas la peur et la tension. Il vient au contraire mettre un terme. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus est celui qui vient mettre un terme à nos peurs. Et il n'y a qu'une seule voix qui se fait entendre. Vous avez remarqué, une seule personne. Pierre. Ce Pierre que l'on connaît bien. Il semble reconnaître Jésus, mais on n'est pas tout à fait sûr. Alors, comme Gédéon autrefois, il va demander un signe. Vous connaissez cette histoire de Gédéon, appelé par Dieu à délivrer Israël. Mais Gédéon voulait un signe. Sûr que tu m'appelles, Seigneur, à délivrer ton peuple. Alors, vous savez qu'il a étendu une toison, etc., etc. Mais là, pour Pierre, il y a quelque chose de différent. Autant Gédéon n'avait qu'à étendre la toison et attendre que Dieu intervienne, autant là, Pierre s'engage. Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi de te rejoindre sur l'eau. Quelle foi incroyable, n'est-ce pas? Ordonne-moi un seul mot, Seigneur, et je quitte mon bateau. Je quitte cette embarcation que je connais bien, ce bois usé, ça et là, par les filets, cette embarcation dans laquelle j'ai tant de souvenirs, les nuits de pêche terribles, les échecs, les joies. Il quitte cette zone qui le sécurise pour un instant, pour aller au-delà de ce qu'il n'avait jamais pu penser aller. Il quitte sa zone de confort, Pierre. Alors il fait un pas, puis deux. Ça marche. Ça marche. Il regarde vers Jésus et marche. Mais il s'approche encore de Jésus, mais il commence à regarder un instant, juste une seconde, l'écume des vagues, la violence de l'eau qui se fracasse sur la coque du bateau. Il tourne les yeux vers ces vagues énormes et sombres, le ciel noir. Il voit cette nuit opaque et c'est à ce moment-là qu'il est pris de vertige. Il sombre et dans un dernier élan, appelle au secours. Au secours, Seigneur. Au secours. J'en peux plus. Je suis en train de me noyer. Je me croyais assez fort pour aller vers toi. Je croyais avoir assez de foi pour aller vers toi. Mais force est de constater que je n'y arriverai pas. Au secours. Au secours. Quel beau pas de foi, n'est-ce pas, de Pierre ? On n'a pas de foi qui n'est pas sans crise, ni défaillance. D'ailleurs, Jésus n'a pas appelé que des gens parfaits autour de lui. Il aurait pu faire appel, de nos jours on ferait ça, à un cabinet de recrutement pour avoir les 12 personnes les plus adaptées. Et voici ce qui aurait pu être la réponse. À Jésus, fils de Joseph, charpentier, père et fils. 25 922, Nazareth. Cher monsieur, merci d'avoir soumis les curriculum vitae des 12 hommes que vous avez sélectionnés pour des postes de direction dans votre nouvelle organisation. Tous ont maintenant passé nos tests. Nous avons de bons résultats grâce aux ordinateurs. Mais ils ont quand même passé les entretiens personnels, chacun d'eux avec un psychologue et notre conseiller en aptitude professionnelle. Mais bon, au vu de leur profil, voici ce que nous suggérons. Notre opinion personnelle, pour la plupart de ces candidats, ils manquent de fond. Ils manquent d'éducation et d'aptitude professionnelle pour le type d'entreprise que vous comptez mettre sur pied. Ils n'ont pas d'esprit d'équipe. Nous vous recommandons de poursuivre votre recherche vers des personnes un peu plus expérimentées, un peu plus conséquentes. Bon, par exemple, Simon-Pierre, il est émotionnellement instable et soumis à des crises d'humeur. André n'a absolument aucune qualité de leadership. Les deux frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel au-dessus de la fidélité de l'entreprise, à l'entreprise. Thomas démontre une attitude de questionnement qui tend à miner le moral. Nous estimons aussi qu'il est de notre devoir de vous dire que Mathieu a été mis sur la liste noire au bureau des meilleures entreprises de Grand Jérusalem. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ont définitivement des tendances radicales. Et ils ont tous deux enregistré un score élevé sur la chaîne maniaco-dépressive. Par contre, il y a un des candidats qui présente un gros potentiel. Un grand, grand potentiel. Homme de capacité et débrouillard. Il rencontre assez facilement les gens. Il a un esprit d'affaires très intéressant. Et il a des contacts en haut lieu. Il est très motivé, ambitieux et responsable. Nous vous recommandons donc Judas Iscariote comme contrôleur et homme à votre droite. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle entreprise. Cordialement, Alexandre, consultant. Heureusement que Jésus n'est pas passé par un cabinet de recrutement. Et c'est rassurant pour nous-mêmes aussi. Nous trébuchons et passons bien par des crises, par des défaillances. Et le salut vient de l'autre rive, de cette main tendue par Jésus. Et c'est ce que nous enseigne Pierre, me semble-t-il, par son attitude de foi. Il est préférable de toujours essayer de suivre Jésus, car c'est par son échec même qu'il va apprendre à connaître Jésus d'une nouvelle manière. Ta foi est bien faible. Nous montre que Jésus attend de nous quelque chose. Une foi conséquente. Vivre par la foi. Mais alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça signifie, la foi, ici? Vivre par la foi. J'attends. Quelle définition donneriez-vous au terme foi, ici? Un synonyme. La confiance. Vivre par la confiance. La confiance en qui? En Jésus. Tout à fait. Effectivement, il y a deux sens que peut avoir le mot foi. Il y a cette foi qui fait confiance. Je crois que je peux m'asseoir sur cette chaise et je m'y assis tranquillement, assurément. Ça, c'est l'abandon, la confiance en Dieu. Mais on peut avoir la confiance en n'importe qui, n'importe quoi. Donc la foi a aussi le sens des doctrines de la foi, du contenu de la foi. C'est le credo que l'on récite parfois avec une certaine distance. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, etc. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vivre par la foi, c'est apprendre à dépendre de Dieu, mais aussi apprendre à connaître celui en qui je place ma confiance. La confiance grandit dans un couple, entre amis, parce que la connaissance mutuelle s'accroît. Donc vivre par la foi, c'est vivre en ayant confiance en Dieu, mais en nourrissant aussi notre connaissance de celui en qui nous plaçons notre confiance. Et c'est ce que fait Pierre. Il découvre là, à travers cet échec, que Jésus est plus qu'un enseignant, plus qu'un sage. Il est l'image du Dieu que nul ne voit, premier-né de toute création. Et c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses dans les cieux comme sur la terre. Alors une question maintenant se pose à nous. Qu'est-ce qu'on va retirer de ce texte ? Oh, il y aurait bien un aspect pratique, peut-être même miraculeux. Qui est-ce qui a envie de marcher sur les eaux ce matin ? Oh bon, moi j'ai pas forcément envie. Mais qui est-ce qui veut voir des choses incroyables dans sa vie, des miracles ? Alors oui, moi je veux bien. Ok, alors fais comme Pierre. Sois prêt à écouter Jésus. Sors de ta zone de confort et marche sur les eaux. Marche. On peut en comprendre ça de cette façon-là. Mais j'ai une question supplémentaire. À quoi ça sert de marcher sur l'eau? À traverser la Seine peut-être en toute sécurité? À traverser la Manche sans avoir à payer le ferry? À démontrer au monde terrestre et aux mondes aquatiques quels merveilleux exploits on peut faire, et les poissons nous regardent bouche bée en train de marcher tranquillement sur les eaux. Est-ce cela le sens de cette parole? À vous de voir. Mais moi, je vous propose un élément supplémentaire. Parce que qu'est-ce que cherchait Pierre en sortant du bateau? Qu'est-ce qu'il cherchait en quittant cette zone de confort, ce bateau qu'il connaissait si bien? Est-ce qu'il s'est dit « j'ai envie de marcher sur l'eau » ? Non. Il cherche à suivre le Christ, à aller plus loin. Et remarquez qu'il est le seul à le chercher. Et si c'était cela, finalement, vivre par la foi, répondre au défi de suivre le Christ envers et contre tout, malgré nos crises, nos échecs, nos défaillances. Qui d'entre nous n'a jamais connu d'échec? Qui d'entre nous ne s'est jamais remis en question? Jamais senti à la hauteur? Qui a dû faire face à ce péché qui nous environne et qui nous tourmente de l'intérieur? Suivre le Christ n'est pas une recherche inaccessible de perfection par une discipline stricte et froide. Pas une recherche de la domination de la chair par une ascèse rigoureuse. Vivre par la foi, c'est suivre le Christ. Apprendre, s'enraciner dans sa personne. Alors, si vous aimez la théologie, cette théologie doit vous apprendre à avoir de plus en plus confiance en celui en qui vous croyez. Une confiance qui grandit. Oui, Seigneur, j'ai pu marcher jusque-là et j'avoue, j'ai chuté. Mais tu m'as tendu la main, tu m'as relevé et je veux aller plus loin. Il y avait un peintre américain qui avait peint un merveilleux panneau, tableau, avec des belles roses. Superbe, presque parfaite. Il y a des peintres parmi nous. Petite image qui était presque parfaite à tel point que tout le monde voulait l'acheter. Mais il a toujours refusé. Et il a gardé ce tableau jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'à chaque fois qu'il était découragé, à chaque fois qu'il doutait, il regardait ce tableau et disait « j'ai peint ça ». J'ai peint ça. Alors sa capacité et sa confiance revenaient. Et pour nous, il ne s'agit pas de regarder un tableau avec des roses. Il s'agit de regarder au Christ, celui qui marche vers nous, celui qui est capable de nous tendre la main, même lorsque l'on a échoué. Alors, chers amis, une question, un défi, qu'est vivre par la foi. Sommes-nous prêts à le faire ce matin. Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, je veux sortir de ma zone de confort, je veux aller et marcher vers toi. Je veux apprendre à entendre ta voix. Sortir de sentiers que je connais bien. Je veux marcher sur l'eau, mais pas pour faire un exploit extraordinaire, mais pour te suivre. Et cela même s'il y a des tempêtes dans ma vie. En Église, répondre à ce défi par la foi consisterait certainement à sortir de notre zone de confort. Sortir de l'Église, peut-être, que nous connaissons bien, ces chaises bien alignées, ce beau bâtiment, ces instruments, ce joli carrelage. Sortir de notre zone de confort pour aller là où le Christ nous appelle. Ça, c'est un défi, n'est-ce pas? Et j'y vois, ça c'est très concret, c'est pas encore le temps des annonces, mais je vois dans notre week-end à Oulgat quelque chose de cela. Sortir de nos habitudes. Sortir de notre zone que nous connaissons bien, le confort de venir dimanche matin, de rentrer et manger petite sieste. Mais là, c'est tout un week-end où l'on sort ensemble. Mais pas pour le tourisme, mais parce que Jésus nous y attend certainement. Et parce que nous voulons répondre à cette question, Seigneur, où nous attends-tu? Alors sommes-nous prêts, personnellement et en Église, à suivre le Christ, à répondre à ce défi de vivre par la foi? Car souvenons-nous ce que Pierre nous enseigne. Il est toujours préférable d'essayer de suivre le Christ, et cela malgré les échecs, car c'est en cela que nous allons mieux connaître le Christ, mieux connaître qui il est. Êtes-vous prêts, chers amis, à écouter ce matin la voix de Jésus, à entendre de lui cet appel à le rejoindre, même si à vue humaine cela semble impossible? Sommes-nous prêts à suivre le Christ? Le défi est lancé. À nous d'y répondre. Amen.